Chers amis, dimanche dernier, nous avons entendu la parabole du bon grain qui était jeté en terre. Et vous avez compris que chacun de nous est ce champ où le bon grain peut croître et donner du fruit. Mais vous avez saisi aussi que nous étions également ce champ pierreux, rempli de ronces, qui étouffe la parole dans notre cœur, qui alors ne donne pas de fruit. Jésus reprend aujourd'hui cette image d'une manière un peu différente. D'abord, il nous dit que la semence est bonne, Dieu est bon, il n'est pas à l'origine du mal. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, qui a semé l'ivraie, et nous restons avec cette lancinante question, pourquoi le mal ? Les serviteurs posent la question au maître. D'où vient qu'il y ait de l'ivraie ? C'est un ennemi qui a fait cela, répond Jésus. Eh bien oui, il y a des forces mauvaises dans notre monde. Je peux me désoler, mais c'est inhérent au monde et nous le vivons quotidiennement comme le Christ lui-même l'a vécu. Alors il y a l'ivraie, une de nos tentations. La grande tentation de toutes les religions, c'est cette recherche à tout prix de la purification des autres. Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ? Eh bien, devant les désastres humanitaires provoqués par les politiques de purification de toutes sortes, il faut écouter la réponse ferme de Jésus, non. Le but de l'Église n'est pas de purifier le monde de son ivraie, mais d'aider chacun à travailler sa terre pour y accueillir la bonne nouvelle, la bonne semence, la parole de Dieu et la faire fructifier. D'ailleurs, l'Évangile dans les Béatitudes n'appelle pas à une purification extérieure du monde, mais une purification intérieure de chacun de nous. Dieu te demande d'être exigeant pour toi-même, pour moi-même, et non pour les autres. Dit autrement, très clairement, il nous demande de regarder la poutre qui est dans notre œil et non pas la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Jésus ne dit pas « heureux ceux qui ont les mains bien propres », même si actuellement il faut utiliser du gel hydroalcoolique, mais « heureux ceux qui ont un cœur pur, les doux, les artisans de paix, ceux qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes ». Et puis il y a le jugement. Le maître viendra un jour pour le jugement, et il en est souvent question dans les Écritures. Ne nous trompons pas de temps. Nous ne sommes pas actuellement dans le temps du jugement que Jésus annonce pour la fin des temps. Mais nous pouvons légitimement être inquiets devant les paroles de Jésus. Il y aurait d'un côté les bons, les brebis, et puis de l'autre, les mauvais, les boucs. Qui d'entre nous est assez fou pour se croire entièrement bon ou bien inconscient pour se croire entièrement mauvais? Personne, j'espère. Le jugement ne passe donc pas entre un tel et un tel, mais la frontière passe au milieu de nous-mêmes. Nous sommes des êtres partagés, comme il est souvent dit dans l'Ancien Testament, des cœurs doubles. Nous sommes chacun de nous personnellement concernés, humbles et arrogants, justes et injustes, bons et méchants, généreux et cupides selon les moments et parfois au sein même d'une même action. Nous cultivons ainsi tout à la fois le bon grain et l'ivraie. Et le maître de la moisson qui refuse de voir arracher le blé avec l'ivraie, ne condamne pas en nous le bien avec le mal. Il veut moissonner le bon. Alors, eh bien, réécoutons la première lecture dans le livre de la sagesse. Toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Et la conversion, ce n'est pas de devenir pur ou parfait, c'est de se tourner constamment vers le Christ. Nous sommes dans le temps de la miséricorde et de la bienveillance de Dieu, dans le temps où il nous faut nous tourner vers lui. À la fin des temps, nous serons jugés, oui. C'est-à-dire que nous verrons la vérité comme nous n'avons jamais osé la regarder en face. Le jugement n'est pas la condamnation, mais la manifestation claire de la vérité pleine et entière. Et à ce moment-là, nous pleurerons. Nous pleurerons amèrement de consternation, d'affliction, d'accablement, en regardant l'ivraie de notre cœur. Et puis nous pleurerons de joie, d'allégresse et de reconnaissance, en voyant que toute cette ivraie, elle est mise à brûler, oui, mais parce qu'elle est enfouie dans le cœur brûlant d'amour pour nous, du Christ, venu à nos côtés, mort et ressuscité pour nous sauver, alors que nous ne méritons rien. Rappelons-nous ce que nous entendons le mercredi des cendres. Convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Alors cet été est bien engagé. Beaucoup ont vécu ou vont vivre dans les mois qui viennent des moments difficiles, en particulier à cause de la pandémie. Eh bien, sachons trouver cet été des moments tout simples, des petits moments, on pourrait dire, de conversion. Entrer un instant dans une église ouverte pour nous recueillir, pour prier les uns pour les autres. Dans l'élan de ce que l'ensemble paroissial a vécu avec les 100 domiciles fixes à Saint-Liboire, ayons un regard différent pour les marginaux, pour ceux qui souffrent. Et puis reprenons chaque jour les 4 fondamentaux de notre synode. La conscience de notre vocation baptismale, de notre responsabilité d'enfant de Dieu. Méditons la parole de Dieu, pas seulement le dimanche à la messe, mais peut-être un petit peu chaque jour, même brièvement. Mettons au centre de nos préoccupations les plus pauvres, les plus fragiles, les malades, que ce soit par un coup de téléphone, une visite, une petite attention. Et puis vivons la fraternité avec tous, et pas seulement avec nos bons amis. Alors chaque jour, avec le psalmiste, demandons au Christ de prendre pitié de nous, avec cette ivraie qui pousse dans nos cœurs. Toi, Seigneur, de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers chacun de tes enfants. Prends pitié de chacun de nous. Amen.